Il y a déjà quelques dimanches de cela, nous avions parlé sur le thème du service. Et nous avions commencé par nous poser la question en quoi consiste le service de Dieu. Et nous avions trouvé quelques réponses ensemble à la lumière de la parole de Dieu. On a vu avant tout que Dieu nous appelle à pouvoir le servir tout simplement en suivant Jésus-Christ. Ça commence par cela. On ne peut pas prétendre servir Dieu sans d'abord choisir de pouvoir servir et suivre Jésus-Christ. Et puis aussi, servir Dieu, c'est aussi apprendre à écouter le Seigneur Jésus. Apprendre à l'écouter et aussi à obéir. Parce que je peux écouter la voix de Dieu et ne pas obéir. Et puis un autre dimanche, nous avions mis l'accent sur la bonne façon de servir Dieu. Et nous avions vu ensemble que pour servir Dieu convenablement, nous devions bien sûr le faire avec crainte. Le faire avec quoi encore ? Avec joie. Et puis aussi de tout notre cœur. Et quand on parle de servir Dieu de tout notre cœur, c'est entre autres bien sûr le faire avec un grand amour dans notre cœur. Alors aujourd'hui, je voudrais tout simplement terminer sur ce thème du service en rappelant à notre entendement quelques caractéristiques du serviteur de Dieu. Et bien sûr, vous comprenez que la liste, elle n'est pas exhaustive puisque je vous propose d'en sélectionner trois avec vous ce matin. Donc, trois caractéristiques, on va dire, spécifiques au serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez les découvrir ? Que ce soit où ou non, on va les découvrir quand même. Premièrement, le serviteur de Dieu ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Et si vous êtes d'accord, dites amen, n'hésitez pas, c'est tellement important. Si c'est mes opinions, je peux comprendre que vous mettez des bémols. Mais si c'est la parole de Dieu, alors appuyez avec un grand amen. Et je vais vous le prouver puisqu'il est écrit dans le livre de Galates, au chapitre 1 et le verset 10, un premier passage pour nous qui confirme que le serviteur de Dieu ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, il précise, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors j'ouvre et je ferme encore, et très rapidement après, par la suite, la parenthèse, je veux encore rappeler ce matin que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas gravir ces 2-3 marches et puis vous prêcher devant vous ce matin. Être serviteur de Dieu, c'est un jour avoir accepté Christ comme notre Sauveur et Seigneur. C'est avoir réalisé que lui, le parfait serviteur, il a été, comme on l'a chanté, et comme plusieurs l'ont dit au travers de leur prière, il est monté sur cette croix à notre place. Il a servi Dieu jusqu'au bout. Et nous, en retour, puisque il a donné sa vie pour nous, nous, en retour, nous avons donné notre vie, alléluia, à ce Seigneur, et nous avons un seul désir, c'est pouvoir le servir pleinement. Nous sommes tous serviteurs et servantes du Seigneur. Et alors, ce verset nous concerne. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et Paul, dans une autre lettre, a pratiquement déclaré la même chose quand on voit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2 et le verset 4, ce qu'il est dit. « Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sont de quoi ? Qui sont de nos cœurs. » Alors allons un peu plus loin. En quoi consiste le fait de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes ? Juste une simple réponse à cette question. En quoi consiste le fait de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes ? Cela consiste tout simplement à servir Dieu dans la vérité, servir Dieu dans la droiture, sans rien en cacher. Alors Paul a dit aux anciens de l'église d'Éphèse, on peut le lire aussi également, je vous donne quelques versets que vous pourrez par la suite relire chez vous tranquillement, Actes chapitre 20 et les versets 26 et 27. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et je le dis, nous n'avons absolument rien à cacher de l'évangile de Jésus-Christ, ni à nos enfants, ni à nos conjoints, ni à peut-être nos amis. et encore moins aux membres de nos familles inconvertis. Il faut que nous puissions servir Dieu en toute transparence, en toute vérité, sans en rien cacher. Et il est vrai que lorsqu'on a bien choisi de pouvoir servir Dieu de cette manière, il est vrai qu'on peut quelquefois s'attirer quelques problèmes. Allez demander à l'apôtre Paul, qui à un moment donné a eu à cœur de pouvoir dire la vérité à certains croyants des églises de la Galatie. Et voilà ce qu'il va dire dans Galates chapitre 4, verset 16. Ne le cherchez pas. Galates chapitre 4, verset 16, lisez-le tout simplement. « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Et j'ai une autre version pour vous, la version parole vivante, qui exprime ce passage de cette façon. « Serais-je donc devenu aujourd'hui votre ennemi pour avoir été sincère envers vous et vous avoir dit la vérité ?» Combien de fois, personnellement, ai-je été amené à dire la vérité à certaines personnes ? Et très rapidement, j'ai compris qu'en leur disant non pas mon opinion, mais ce que dit la parole de Dieu, ils n'étaient pas du tout contents. Je l'ai peut-être déjà partagé, et ça ne s'est pas passé ici, je rassure. C'est une jeune fille qui avait à cœur de pouvoir aller plus loin avec le Seigneur, et elle voulait s'engager par les eaux du baptême. Et elle était assise en face de moi, mais elle n'a pas caché qu'à côté de ce désir, elle vivait en concubinage, et pire, elle vivait la fornication avec un inconverti. Et je lui ai dit, mais ça ne peut pas se faire. Tranquillement, avec douceur, il faut reprendre les gens avec douceur. Et noir sur blanc, je lui ai montré les versets de la parole de Dieu qui l'invite avant tout à pouvoir mettre sa vie en règle pour après, par la suite, passer par les eaux du baptême. Parce que la définition du baptême, c'est quoi ? C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et comment puis-je entrer dans les eaux du baptême avec une telle conscience souillée par le péché ? Pour ça, notre Dieu, il est merveilleusement, alléluia, un Dieu d'ordre. Il ne mettra jamais la charrue avant les bœufs. Et avec tendresse, avec amour, il va nous dire la vérité. Et nous avons besoin pleinement de pouvoir calquer notre Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, certains chrétiens recherchent des églises avec des pasteurs qui leur prêchent ce qu'ils veulent entendre. Alors j'ai donné là, sur mes notes, quelques exemples. Certains veulent qu'on leur parle de Dieu, mais sans faire mention de Jésus, au nom de l'œcuménisme ou d'autres un principe humain. D'autres veulent que l'on parle de l'amour de Dieu, mais sans parler de sa sainteté et sa haine pour le péché, parce que c'est une réalité. D'autres encore veulent que l'on parle, ils veulent entendre parler de la croix, mais ils ne veulent pas comprendre qu'ils ont besoin de pouvoir se repentir pour obtenir le salut. Certains ne veulent même pas entendre parler de la croix. C'est trop sanguinaire, cette affaire. Pourtant, le péché a été tel que Dieu, dans son amour, a été amené à envoyer son Fils Jésus-Christ afin de mourir à la croix pour nous. Quel amour ! Ça a un prix, le prix du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Aujourd'hui, certains ne supportent plus d'entendre parler de sanctification. Ils préfèrent plutôt qu'on leur parle de prospérité. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis ? Et d'ailleurs, pour la circonstance, l'apôtre Paul va exhorter Timothée en ces termes de Timothée, chapitre 4, les versets 2 à 4. On peut le lire également ensemble. « Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps, et je crois que ce temps il est déjà arrivé, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, qu'est-ce qu'ils feront ? Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Que Dieu nous garde, frères et sœurs, d'être ce genre de personnes ce matin. Au contraire, durant son séjour sur terre, Jésus se différenciait des autres enseignants. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il parlait selon la vérité. Il parlait suivant les paroles qu'il recevait directement de Dieu le Père et il les annonçait. Il va dire dans Matthieu chapitre 22, verset 16, ou plutôt eh bien, ceux qui essayaient de le piéger, il nous est dit, ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Vous voyez, même les ennemis du Seigneur Jésus savaient que le Seigneur, quand il ouvrait la bouche, c'était empreinte de vérité. Parce qu'il est notre exemple, le Seigneur Jésus. Il ne cherchait pas à plaire aux hommes, mais il cherchait à plaire au cœur de son Père. Vous voulez servir Dieu ? Nous voulons servir Dieu. Je crois que c'est le désir de chacun. Autrement, nous ne serions pas là ce matin. Si, mon frère, ma sœur, tu veux servir Dieu, il te faut ne pas chercher à plaire aux hommes, mais chercher à plaire à ton Dieu. Amen. Voilà un premier point, voilà une première caractéristique. Une deuxième caractéristique que j'ai sélectionnée pour vous est concernant le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, il ne brise pas le roseau cassé. Qu'est-ce qu'il fait également ? Il n'éteint pas la mèche qui brûle ou qui fume encore. C'est le prophète Ésaïe qui va s'exprimer en ces termes et va être le porte-parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 3, on pourrait prendre le temps également de le lire. Ésaïe chapitre 42, du verset 1 jusqu'au verset 3. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Et voilà le verset qui nous intéresse. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. J'ai pris pour vous aussi d'autres versions. La version Bible en français courant exprime le verset 3 de la manière suivante. Il ne casse pas le roseau déjà plié. Il n'éteint pas la lampe qui faiblit. Une autre version, la version Parole de vie, exprime encore ce verset de la manière suivante. Il ne casse pas le roseau courbé. Il n'éteint pas la flamme qui devient faible. Dites-moi, le roseau cassé et puis cette mèche, ce lumignon qui fume encore, n'est-ce pas là deux belles images de ce monde si faible ? N'est-ce pas là aussi, eh bien, quelquefois, une image de ce que nous pouvons vivre les uns les autres ? On ne pourrait pas ce matin, quelquefois, s'identifier à ce roseau cassé ou peut-être même à ce lumignon qui fume encore, même après des années de marche chrétienne avec le Seigneur. Frères et sœurs, soyons honnêtes, il peut nous arriver de ressembler à ce roseau cassé ou même à cette mèche qui fume encore. Amen ou pas amen ? J'ai tellement d'exemples à vous donner, peut-être à cause des coups durs et des épreuves de la vie. Notre foi est comme semblable à ce lumignon qui fume encore, ou semblable à ce roseau qui est fragilisé par les tempêtes de la vie, fragilisé à cause de blessures infligées par autrui, à cause du découragement et de l'abattement. Je ne veux pas faire un sondage ce matin, j'aurais pu demander si quelqu'un se reconnaissait par rapport à ces exemples de lever le doigt, on ne le fera pas. Être fragilisé à cause d'un péché, à cause d'une chute, à cause d'un échec. Depuis qu'on s'est donné au Seigneur, est-ce qu'on n'a jamais péché ? Est-ce qu'on n'a pas jamais connu des moments d'abattement ? J'ai retenu pour vous un exemple parmi tant d'autres, c'est celui de l'apôtre Pierre. Après son terrible, terrible reniement, il était comme ce roseau cassé, cette mèche qui brûle. À peine, il a connu un cuisant échec qui l'a quelque peu fragilisé. Ce serait bien de pouvoir relire un petit peu ce qu'a été le contexte de son échec. On va le lire, Matthieu chapitre 26, au verset 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais qu'est-ce que fit Pierre ? Allez, on commence. Verset 70. Il le nia devant tous Autrement dit, il mentit. Disant, je ne sais ce que tu veux dire. Il l'a dit haut et fort pour bien le faire comprendre à tous, puisqu'il le nia devant tous. Verset 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau. Vous savez, quelquefois, un péché en amène un autre. Mais il le nia de nouveau avec serment. C'est-à-dire, il a affirmé d'une manière solennelle, « Je vous dis que je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. » Verset 73, progressons. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire des imprécations. C'est quoi des imprécations ? Imprécations, c'est invoquer même la malédiction de Dieu, qu'elle tombe sur vous. Et c'est sous-entendu dans ce texte. Pierre, à un moment donné, a dit, mais que Dieu me foudroie sur le champ. Si, à un moment donné, j'ai connu cet homme, il fit des imprécations, et qu'est-ce qu'il fit en plus ? Il jura. C'est quoi jurer ? Je le jure. Il a dit, je le jure, je ne connais pas cet homme. Parce que quelquefois, on lit les textes, mais on ne réalise pas quelle était aussi la profondeur aussi. Par exemple, là ici, du reniement de Pierre. Je ne connais pas cet homme. Et la Bible nous dit, aussitôt, le coq chanta. Et le verset 75, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et lui avait dit, mais non, les autres, ils peuvent te renier, mais pas moi. Et étant sorti, il pleura amèrement. Est-ce qu'on n'a pas affaire ici à un roseau cassé ? On le sait, c'est aussi sous-entendu dans le texte. C'est vrai qu'il est parti amèrement, il a pleuré. Il a pleuré même sous son péché. Et on le croit, bien sûr, il s'est repenti de son péché. Mais quelque part, Pierre était brisé intérieurement. Pierre était atteint, était fragilisé par son propre reniement. Pierre s'est dit certainement au plus profond de lui-même, ça y est, c'en est fini pour moi. Il a peut-être dit aussi, j'ai été beaucoup trop loin, Dieu m'a sans doute rejeté. Et c'est peut-être, peut-être les termes que quelqu'un peut penser, alors qu'il a passé cette semaine, une semaine pénible. Ça y est, le Seigneur, il s'est détourné de moi. Pierre avait une vilaine blessure au plus profond de son cœur. Mais, et béni soit Dieu pour les mais que l'on retrouve dans la parole de Dieu, Dieu dans son amour, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, est venu le réhabiliter auprès d'un feu, lui rappelant que de toute façon, il l'avait déjà pardonné et qu'il avait même déjà prié pour lui afin que sa foi ne défaille point. Il a même été à lui rappeler que maintenant, lui-même lui confiait une tâche des plus excellentes, des plus importantes et qui touche même le cœur du Père. Il va dire à Pierre, « Paix mes brebis, paix mes agneaux. » Autrement dit, prends soin de tes frères et de tes sœurs. Voyez-vous, quand nous nous sentons brisés et épuisés, Jésus ne nous écrase pas. Jésus, alléluia, ne nous rejette pas. Au contraire, dans sa miséricorde, parce qu'il est fait mention là de miséricorde, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient à nous et il nous relève. Qui a déjà expérimenté le relèvement du Seigneur ? Amen. Et peut-être que ça va perdurer. Le Seigneur, il est fidèle. Nous sommes ses enfants et il est un véritable Père pour chacune, alléluia, de nos vies. Regardez ce qu'il est dit dans Psaume chapitre 34 et le verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et si tu es dans l'abattement ce matin, sache que tu es un Père qui pose un regard tendre sur ta situation. Il ne brise pas le roseau cassé. Et il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Et je crois que nous avons besoin peut-être de calquer cet exemple pour être serviteur de Dieu. Il nous faut user de miséricorde. Il nous faut user de compassion. Frères et sœurs, gardons-nous d'être ces personnes légalistes. Ces personnes qui coupent le cheveu en quatre. Ces personnes qui jugent et qui condamnent sans même chercher à manifester la moindre miséricorde. Moi, quand je lis la parole de Dieu, je découvre que notre Dieu, c'est un Dieu plein de compassion et plein de miséricorde. La Bible dit dans l'épître de Jacques que la miséricorde triomphe de quoi ? Du jugement. Et autre part, il est dit que Dieu prend plaisir à quoi ? À la miséricorde. Soyons, frères et sœurs, ces personnes miséricordieuses. Vous savez, un de mes formateurs, un de mes pasteurs, le pasteur Girago, qui est passé ici en ces lieux, il m'a dit, Joël, je préfère me tromper en exerçant la miséricorde qu'en ayant bien cet esprit de jugement, cet esprit qui condamne, parce que ce n'est pas celui du Seigneur. Quand les disciples ont voulu bien que le feu du ciel puisse descendre sur les Samaritains, Jésus s'est retourné et leur a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Seigneur nous invite à pouvoir exercer la miséricorde à l'égard de notre prochain, à l'égard peut-être même de celui bien qui peut être notre ennemi. D'ailleurs, il nous a dit, aimez vos ennemis. Amen, frères et sœurs. Tu veux être serviteur ? Alors, manifeste bien de la compassion. La Bible dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 12, on va lire ce texte. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Revêtez-vous d'entrailles de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et nous voudrions manifester ces choses entre nous afin bien de ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas être long ce matin et prendre donc un troisième et dernière caractéristique du serviteur de Dieu. On l'a vu, le serviteur de Dieu ne cherche pas à plaire aux hommes, mais il cherche surtout et essentiellement à plaire à Dieu. Le serviteur de Dieu ne brise pas le roseau cassé, il n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Je voudrais aussi rajouter une autre caractéristique et dire que le serviteur de Dieu, il est aveugle et sourd à certaines circonstances. Alors, on va rester sur Ésaïe chapitre 42 et regardez même au verset 19 ce qu'il est dit. Ésaïe chapitre 42, le verset 19. Toujours par le prophète Ésaïe, Dieu parle et s'adresse à son peuple. Il dit « Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie ? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel ?» Alors, ne tordons pas le texte et ne sortons pas du contexte non plus. C'est clair, à travers ce texte, Dieu fait un reproche à Israël, son peuple. Il lui fait le reproche suivant, c'est qu'il est spirituellement aveugle, il est spirituellement sourd, il est atteint de surdité spirituelle. Ça, c'est clair, c'est indéniable. D'ailleurs, même au verset suivant, je crois que c'est le verset 20, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde, va-t-il dire à son peuple. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Donc c'est bel et bien un reproche qu'il fait à son peuple. Mais avec vous, ce matin, je m'interroge et je me pose la question, je vous pose la question. Est-ce que dans certaines circonstances particulières de notre vie, Dieu ne nous appelle-t-il pas néanmoins à être aveugle et sourd face, par exemple, aux circonstances négatives qui pourraient avoir tendance à nous décourager ? Ou à nous faire douter ? Dieu ne nous appelle-t-il pas à être quelque part aveugle et sourd ? Il y a tellement d'exemples comme dans les évangiles, c'est Jaïrus qui à un moment donné a demandé à Jésus de venir l'accompagner afin qu'il puisse guérir sa fille qui était gravement mourante. Mais alors qu'il conduisait Jésus vers sa fille, Jaïrus a pris une mauvaise nouvelle qui le déstabilisa. Vous connaissez cette histoire dans Marc chapitre 5, et on peut lire juste le verset 5, verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent : ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ? Waouh, quel tact ! Et puis, précisez bien, regardez bien avec moi, ils sont sortis, ces personnes sont sorties. Alléluia, bien de chez Jaïrus pour dire ces choses. Je pense qu'ils ont manqué un peu de tact. Et je me pose la question avec vous, ces gens qui venaient de chez Jaïrus furent pour ce dernier la voix du doute et de l'incrédulité? Oui ou non? En tout cas, le Seigneur Jésus, juste au verset suivant, Marc chapitre 5 et le verset 36, va dire à Jaïrus, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, Jésus, notre exemple, Jésus, le serviteur par excellence de Dieu, sans tenir compte de ses oreilles, donc de ses paroles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ses oreilles, il les a fermées. Parce que lui aussi a entendu ce que ces gens sont venus dire à Jaïrus. Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et nous avons besoin à des moments, excusez-moi, de mettre des bouchons dans nos oreilles. Face à certaines paroles qui sont là uniquement pour nous nuire, qui sont là peut-être même pour nous troubler, pour nous déstabiliser. Mais écoutons tout simplement la voix du maître qui te dit ce matin, ne crains pas, crois seulement. Notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est tout puissant. Et la foi auquel le Seigneur nous appelle consiste à placer notre confiance en Dieu. Et non pas forcément dans ce que nous pouvons entendre ou voir et qui pourrait nous déstabiliser, frères et sœurs. Oui, je dis quelque part, dans certaines circonstances, Dieu nous appelle à être des serviteurs qui sont sourds et aveugles. Amen ou pas amen? Là, vous pouvez dire amen. Durant sa mission terrestre, Jésus, le parfait serviteur, en tout cas lui, il s'est rendu aveugle. Il s'est rendu aveugle et il s'est rendu sourd à toute voix qui voulait l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu son Père. Même quand, pour reparler de lui, l'apôtre Pierre est venu au-devant de lui avec quelques suggestions. On pourrait encore relire ce texte, ce sera le dernier verset qu'on lit. Matthieu chapitre 16, les versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Autrement dit, Jésus était en train d'expliquer à ses disciples ce qui allait arriver, ce qu'il avait reçu de la part de Dieu son Père, la feuille de route qu'il avait reçue. Il savait qu'il allait au-devant de la mort et il savait pourquoi il le faisait. Et on lit au verset 22, « Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et le verset suivant nous dit, « Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et j'aime à préciser que, il n'a pas traité Pierre de Satan. Mais au travers, malheureusement, de ces paroles négatives, Satan a essayé de détourner, alléluia, le Seigneur Jésus de sa mission première, c'est-à-dire de donner sa vie sur la croix. Frères et sœurs, soyons sourds et soyons muets devant quiconque voudrait vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Notre but, il est devant nous. Jésus est à la porte, il revient bientôt et il viendra prendre des vainqueurs. Il viendra prendre des hommes et des femmes qui resteront attachés fermement à la parole de Dieu. Et il y aura des vents contraires, il y aura des voix qui voudront essayer de vous décourager. Il y aura même la voix de l'ennemi qui essaiera de vous décourager, à dire « Oh, pourquoi tu t'es levé ce matin ?» Et puis tu n'as pas vu ta semaine. Mais on saura lui dire « Arrière de moi, Satan, parce que je ne vais écouter que la voix de mon doux berger. » Mon merveilleux Sauveur, et d'ailleurs qui est là ce matin, et qui nous rappelle que nous sommes appelés les uns les autres à être ses serviteurs devant lui. Et il a voulu nous rappeler ces trois caractéristiques que je veux à nouveau citer devant vous. Nous avons vu que celui qui désire servir Christ ne cherche pas à plaire aux hommes, mais il cherche à plaire à Dieu, on est d'accord. On a vu aussi également, on a vu quoi ? Que celui qui veut servir Dieu, il aime et il pratique la miséricorde. Pourquoi ? Parce qu'il sait, alléluia, que le serviteur de Dieu, il ne brise pas le roseau cassé et il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Et nous venons de voir, bien sûr, que le véritable serviteur de Dieu, il se rend sourd et aveugle à toute circonstance négative qui l'empêcherait de pouvoir servir Dieu, son maître. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses, que Dieu nous aide surtout à les mettre en pratique, afin que nous soyons ses serviteurs que le Seigneur qualifiera de bons et de fidèles. Parce que c'est ce qui va se passer. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous instruis par ta parole. Tu veux que nous puissions faire des progrès et tu ne nous as rien caché de ta volonté à notre égard. Tu veux que nous soyons ces serviteurs, ces servantes qui ont décidé de pouvoir suivre Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Tu nous as rappelé, Seigneur mon Dieu, que nous avons besoin de pouvoir te servir avec crainte, avec joie, Seigneur, et de tout notre cœur. Et aujourd'hui même, tu nous donnes et tu nous rappelles quelques caractéristiques du véritable serviteur de Dieu. Seigneur, transforme-nous, change-nous ce matin. Seigneur, donne-nous ce courage pour toujours marcher dans la vérité et la droiture et dire les choses selon ta parole, non pas pour chercher à plaire aux hommes, mais chercher à te plaire à toi. Seigneur, donne-nous également, Seigneur Père éternel, à nous rappeler que tu ne brises pas le roseau cassé. Et Seigneur mon Dieu, parce que nous voudrions te ressembler, nous voudrions aussi user de miséricorde. Enlève tout esprit de jugement, tout esprit de condamnation, mais donne-nous ta compassion et ton amour, que nous puissions libérer cet amour qui est dans notre cœur et qui a été déposé par le Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, aide-nous à être sourds et aveugles devant quiconque, devant, Seigneur mon Dieu, les paroles ou les circonstances négatives qui pourraient nous empêcher d'atteindre le but. Tu reviens bientôt et tu veux, Seigneur mon Dieu, que tu veux nous trouver fidèles jusqu'au bout du voyage. Aide-nous, fais-nous grâce. Amen, amen.